Dans les lectures de ce mardi, je vois un thème qui traverse les deux lectures, à la fois les Actes des Apôtres, où nous voyons Paul parler, par la bouche de Luc dans les Actes, donc, et dans l'Évangile, nous voyons un souci, une demande, de glorification de Dieu. Ce qui va amener la question de savoir c'est quoi glorifier Dieu. Est-ce qu'on demande à Dieu à qui on demande à Dieu de glorifier? Est-ce qu'on glorifie Dieu? Est-ce qu'on glorifie Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu nous glorifie? Enfin, toutes ces questions auxquelles vont répondre d'une certaine manière les lectures. Et au fond, c'est assez bouleversant, ça arrive parfois de façon très importante, et là je trouve que c'est assez extraordinaire. La glorification que Jésus demande à son Père est en fait actualisée. Alors Jésus, ça s'est entendu bien sûr, hein. Elle l'a été, je vais y venir, mais elle est actualisée aussi par la première lecture, où finalement c'est ce que Paul essaie de faire. Et comment est-ce que Paul glorifie Dieu? C'est la vraie question. Alors, moi, j'ai noté quelques petites choses que j'ai trouvées importantes. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. L'orgueil ne peut pas servir Dieu. Ça n'est pas possible. Du reste, vous savez peut-être que dans les deux opinions qui existent au sujet du péché de Satan, il y en a un auquel le plus traditionnel, auquel est attribuée cette phrase « non serviam », je ne servirai pas. Je ne me mettrai pas à genoux devant un ver de terre, un ver de terre étant une créature, la créature étant un être humain, au moment où les anges apprennent que Dieu va prendre une nature humaine. En plus que le Fils va prendre une nature humaine, associée donc à sa nature divine. Je ne servirai pas. Eh bien là, il s'agit de servir en toute humilité. Comment ça se caractérise? Je ne sais pas très bien, parce qu'il faudrait que je sois humble pour m'en rendre compte. Ce que je pense, l'expérience que j'ai faite, en tout cas, c'est que peut-être un des degrés de l'humilité les plus accessibles, ça va être de ne pas scandaliser. Scandaliser ne veut pas dire ce que vous pensez peut-être que ça puisse vouloir dire. Scandalizein, en grec, ça veut dire mettre un piège, ça veut dire faire tomber, piéger quelqu'un. Donc scandaliser, ça va être piéger quelqu'un, ça ne veut pas du tout dire des choses qui vont le renverser, parce que précisément l'évangélisation, ça renverse. Donc c'est pas ça, mais ça va être de ne pas bien choisir ses mots, ça va être de trop parler, ça va être de ne pas écouter, ça va être assez facilement d'ajouter des choses inutiles. Dans le Magnificat là, que je regarde, il y avait un passage de Saint Isaac de l'Étoile, « Renoncer à la vanité de ma parole ». Voilà. Combien de fois est-ce que quand on doit parler du Seigneur, la vanité se glisse dedans? Alors, si vous lisez l'échelle de Saint Jean Climac, vous verrez que, je ne sais plus à quel chapitre se trouve le passage sur la vanité, mais vous verrez que la vanité, c'est à peu près inépuisable, ce qui est tout à fait désolant. Mais enfin, au moins, on est sûr que on aura fait ce qu'on peut. Donc d'abord l'humilité, ensuite Paul dit « je n'ai rien négligé de ce qui était utile ». Donc, vous voyez, ça s'oppose un peu. Il faut négliger ce qui est inutile, mais ne pas négliger ce qui est utile. Pourquoi faire? Eh bien, pour annoncer l'Évangile, en public, ou chez soi, ou à la maison. Là encore, un passage très très intéressant, qui montre que l'évangélisation, ce n'est pas réservé aux prêtres à la messe, à l'homélie, supposé que les gens écoutent, c'est partout. En fait, c'est notre attitude, peut-être plus que notre parole, qui va être évangélisatrice ou scandalisatrice. Voilà, c'est très souvent ça. Et Dieu nous supporte, même quand on scandalise, il répare les bobos après, et parfois on peut faire de sacrés dégâts. Dernière chose que je relève, hein, il y en a plein, c'est je n'accorde aucun prix à ma vie. En aucun cas, je n'accorde de prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course. Donc, Paul a très bien compris la mission qui lui a été donnée, et pour cause, puisque Jésus lui est apparu pour le lui dire. Donc, c'est plus simple, certainement. Et au fond, l'annonce de l'évangile de la grâce, dit-il, est supérieure au prix de sa vie. Alors, comment est-ce que c'est possible, ça? Ben, je pense que c'est une intégration complète de l'ascension. C'est-à-dire qu'on sait où on est, on sait où on va, on sait comment ça va finir, on sait où ça va finir, on sait où on va passer son éternité, on sait que Dieu est là. Enfin bref, la peur n'a plus aucune prise. Bon. Et au fond, vous verrez que si vous accordez du prix à votre vie, on va dire, mince, si demain je meurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réponse dans la question. Ça met en lumière des peurs qui sont là, qu'il serait bon d'éclairer, de voir, bon, d'accord, j'ai la trouille. D'abord, il faut l'accepter. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai piqué une roue à mon voisin. D'accord, peut-être on va pouvoir la lui rendre. Vous voyez, c'est l'occasion de mettre tout de suite sa vie en route, sa vie en accord avec l'Évangile. Bon, évidemment, mon exemple est stupide, hein, mais voilà, on va préparer, se dire, de fait, peut-être je meurs demain, après tout. Est-ce que je pourrais dire que j'ai achevé ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus? Nous avons tous un ministère, hein, à partir du moment où nous sommes baptisés, nous sommes missionnaires. C'est inhérent à l'Église. Donc le baptême nous rend missionnaires. Alors ensuite, il faut voir quelle mission nous avons, c'est entendu, celle du pape, c'est pas tout à fait la même que la vôtre et la mienne. C'est évident, il y a plus de responsabilités, plus de... Mais néanmoins, nous avons tous quelque chose à faire dans le monde où nous sommes. Il n'y a pas besoin d'aller faire des manifs, si ce n'est pas nécessaire, hein, tout seul du moins. Voilà, nous avons chacun quelque chose à faire, quelque chose à proposer, une parole à dire, humblement. Et donc Paul parle de l'évangile de la grâce. La grâce de Dieu est la plus forte. Au fond, c'est ça la grâce de l'évangile de la grâce, c'est que la grâce est la plus forte. Est-ce que je consens à ce que la grâce soit la plus forte, oui ou non? Alors vous allez me dire, évidemment, non. Parce qu'à chaque fois que vous tombez dans le péché et que vous vous repliez sur vous-même, vous mettez la grâce en échec. Tout simplement, tout dramatiquement. Ça veut dire que à chaque fois que nous commettons un péché, il nous faut nous jeter immédiatement dans les bras de la grâce. Un prêtre me disait récemment une phrase de saint Augustin qu'il me citait de mémoire. Bon, je n'ai pas réussi à la trouver. Je crois que je l'ai déjà dite l'autre jour, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Si tu t'aperçois que tu n'arrives pas à ressembler au Seigneur par les actes de ta vie, virgule. Donc ça, c'est situation du pécheur commun. Prends conscience que tu lui ressembles, prends conscience au moins que tu lui ressembles, car ton péché lui déplaît à toi comme à lui. Et cette phrase de saint Augustin, apparemment, qui ne doit pas être textuelle, en plus il faudra la retrouver en latin, bon, je ne sais pas d'où ça sort, ça m'intéresserait si quelqu'un trouve quelque chose. eh bien, cette phrase nous dit, ok, donc s'il la déteste autant que moi, puisque je le déteste, mon péché autant que lui, je suis apte à la grâce, puisque, enfin apte, c'est plutôt que la grâce est pour moi, quoi. Puisque le principe de la grâce, c'est d'être des pécheurs, je suis venu pour les malades, et pas pour les gens bien portants. L'évangile de la grâce. Et alors donc, toute cette glorification que Paul essaie d'obtenir pour le Seigneur va l'obtenir pour Paul, puisqu'il va pouvoir donner sa vie pour celui qu'il aime. Ce qui est la glorification la plus élevée, me semble, et qui est Dieu, donc qu'il aime. Et nous trouvons ça dans l'évangile. « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » C'est assez curieux comme formule. Le Fils demande à son Père de la gloire. Pourquoi le fait-il ? C'est bizarre quand même. Afin qu'il puisse lui aussi donner cette gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce que le Fils ne peut rien donner qu'il n'ait reçu du Père. Donc si le Père lui donne de la gloire, il pourra la rendre au Père. C'est un mouvement circulaire qui ne s'arrête pas. Le Fils ne la garde pas. Et en fait, donner cette gloire, c'est faire qu'il obtienne pour tous la vie éternelle. C'est la gloire du Fils. La gloire du Fils, c'est que nous soyons, c'est qu'un homme qui est Dieu, un homme rachète l'humanité et l'enlève du pouvoir du démon. La gloire, c'est la vie éternelle, ce qui est la même chose, puisque si nous sommes sous le pouvoir du diable, la vie éternelle, ça va être compliqué, ça va être plutôt la mort éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Mais on passe sa vie éternelle à le connaître, puisque Dieu est infini, donc ça va être compliqué de faire le tour. Et tout cela est déjà réalisé, nous dit Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, et c'est, me semble-t-il, la deuxième partie, le deuxième tiers et le troisième tiers de l'évangile. Tu les as pris dans le monde, tu me les as donnés, ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole, c'est-à-dire moi. Et donc si c'est moi, c'est la parole que tu m'as donnée. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Bah, oui, puisque tout ce que Dieu Jésus fait vient du Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, redondance, ils les ont reçues. Ils ont donc reconnu que je suis sorti de toi, puisque ce que je dis vient de toi. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donné et donc qui reçoivent cette parole. Et donc, en fait, on apprend ici que... Jésus affirme que les 12, au moins ceux qui étaient présents, alors il n'y en a peut-être plus que 11 à ce moment-là, parce que Judas s'est tiré un peu avant. Mais donc, les apôtres, que figurent ces 11 apôtres authentiques, premiers... en eux est déjà accompli ce que Jésus va faire. C'est assez fort, hein, parce que pourtant, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Alors, est-ce que j'exagère un peu en disant ça ? Maintenant, glorifie, que j'avais près de toi avant que le monde existât. Donc là, nous avons une déclaration explicite des deux natures du Fils, hein, vrai Dieu, vrai homme. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Ils ont reconnu que je suis, que tout ça vient de toi et que je vais vers toi. Donc en tout cas, eux, ils ont adhéré à tout ça. Et ils y adhèrent et ils vont être sauvés. Et donc il faut y adhérer pour être sauvé. Et donc la prière de Jésus, donc je ne dirais pas finalement que c'est réalisé déjà dans les apôtres, je dirais que ce qui est nécessaire à l'accomplissement du salut est réalisé dans les apôtres. Ils ont cru, ils adhèrent, ils savent que c'est Dieu. Et si je puis dire, bien, il n'y a plus qu'à souffrir, mourir et ressusciter. Et vous comprenez bien qu'il fallait que ce soit Jésus qui le fît, puisqu'aucun homme n'était capable d'endurer une chose pareille. Donc il fallait un homme qui soit aussi Dieu pour pouvoir endurer des choses aussi terribles. Et donc, tout ça nous montre que la glorification de Dieu, c'est l'évangélisation, l'évangile de la grâce. Vous voyez, on a fait le tour avec les deux lectures. C'est assez bouleversant, je trouve. Enfin, ça ne m'avait pas fait ça depuis un petit moment, mais je trouve que c'est absolument génial, quoi. C'est vous vous dites, mais qui a écrit ce lectionnaire? Donnez-moi des noms, quoi. Parce que c'est dingue d'avoir mis ces lectures en regard, c'est complètement une œuvre du Saint-Esprit, ça. Enfin, bon, voilà, donc vous voyez, ça arrive assez souvent. Parfois, c'est moins évident. Là, en tout cas, pour ma part, je trouve ça très évident. Et j'en suis d'autant plus bouleversé, c'est pas pour vous parler de moi, mais pour que vous n'ayez pas peur de faire cette expérience si elle vous arrive. J'en suis d'autant plus bouleversé qu'en lisant l'Évangile hier, je me disais, waouh, c'est quoi ce truc ? Glorifie ton fils, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Et puis, finalement, on s'aperçoit, en laissant le Saint-Esprit, en laissant mûrir la parole en soi, et en recevant l'éclairage de l'Esprit Saint, que si tu te laisses guider, tu comprendras un petit peu mieux quelque chose, et il y aurait encore beaucoup de choses à dire.